il y a trois blocs fenêtres. Et on est, c'est voilà, dans les proportions, là, ça se, voilà, je trouvais qu'il y avait quelque chose, ça, il y a une espèce de réponse, quelque chose, voilà. Et mais alors ensuite, c'est en effet, c'est une série qui a donné lieu à des pièces de taille très différente. Il n'est pas nécessaire d'en mettre forcément une cinquantaine. On peut en mettre deux, même j'en ai parfois présenté à l'unité, simplement. C'est pas une obligation.
Pourquoi sont-elles penchées? On a l'impression qu'elles vont tomber.
Alors, je crois qu'au début, tout d'abord, l'artiste, c'est pas toujours. Un artiste procède souvent par intuition. Les artistes aiment bien donner l'impression qu'ils le savent, qu'il y a de bonnes raisons, que ça fait sens, mais en fait, à la vérité, je ne crois pas du tout. Je pense que l'artiste, au départ, il ne sait pas bien. Il ne sait pas bien au début, parfois même pendant, et même parfois encore après, il ne sait pas bien. Je crois qu'il y a deux choses. Il y a tout d'abord le fait de l'avoir penché, c'était pour essayer d'aller récupérer un peu plus de lumière. Je voulais le pencher de sorte que la lumière rebondisse davantage sur cette surface. Et puis aussi, en fait, j'avais en tête aussi ces panneaux solaires. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les centrales solaires. Ce sont plein de panneaux qui viennent comme ça renvoyer la lumière du soleil. Et donc, c'est des dispositifs qui sont mobiles et qui peuvent se pencher. Donc voilà, je crois qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Mais bon, c'est chacun peut le voir comme il l'entend.
J'avais l'impression que les oiseaux, c'était comme des jouets.
Alors, c'est tout à fait exact, parce que l'origine de cette pièce, c'est un jouet. C'est un objet qui est beaucoup plus petit, qui trône au-dessus du lit de mes parents, et qui est là depuis deux générations, et donc principalement les enfants qui sont sensibles à cet objet. Et tous les enfants, génération après génération, ils veulent tirer sur le fil. Et un jour, j'ai trouvé qu'il y avait, c'est un dispositif tellement simple, qu'il y avait cette petite poésie, et puis j'adorais ce mouvement très lent. Et donc j'ai simplement, j'ai fait un autre objet un peu plus grand, mais c'est simplement, voilà, je suis allé glaner cette chose, et hop, j'ai, voilà. Mais c'est très juste, à l'origine, c'est un jouet.
Aimes-tu utiliser la lumière? À quoi elle te sert?
Alors, la lumière est à mes yeux très très importante dans la plupart de mes dispositifs. J'ai même ce défaut. J'ai remarqué que souvent, lorsque je montrais mon travail dans une exposition collective avec d'autres artistes, j'avais tendance à tirer un peu trop la lumière sur mon travail. Je voulais toujours mettre de la lumière, plus de lumière, encore plus de lumière, parce que les choses apparaissent dans la lumière. Alors tout dépend de la nature du travail, tout dépend de ce que l'on montre, mais c'est quand même, on vit dans un monde baigné de lumière, et là, comme le travail de l'artiste est de montrer des choses, la lumière est forcément. Alors, il y a des artistes qui l'utilisent plus que d'autres, mais je pense beaucoup à la lumière, très souvent à la lumière. Bien que dans cette exposition, vous avez peut-être remarqué qu'on est quand même dans une lumière qui est quand même assez contrôlée, assez. On a plutôt décidé de descendre les tissus là qui permettent d'atténuer un peu la lumière. Je voulais pas qu'il y ait quelque chose d'agressif, mais par exemple, pour en revenir à l'accumulation d'affiches, la lumière sur cette pièce par exemple, c'est très très important. S'il y a une lumière un peu diffuse, un peu, ça peut devenir quelque chose de tout à fait éteint, et ce serait dommage.
Qu'est-ce qui a été le plus difficile?
Alors, il y a plusieurs choses. La pièce des ressorts, Je ne sais pas si ça répond à ta question, mais j'ai eu, pour le coup, j'ai eu un petit peu de mal de la projeter dans cet espace. Parce que avant de poser les pièces, de faire l'exposition, on passe 3 mois avant, 6 mois avant, on nous présente l'espace, voilà, tu vas faire quelque chose ici, enfin, si tu l'acceptes. Et tu rentres chez toi et tu commences à travailler là-dessus. Et j'avais cette idée de faire cette pièce avec les ressorts. Et j'avais énormément de mal de projeter cette pièce. Donc c'est quelque chose, ça m'embêtait beaucoup parce que c'était un élément important dans cette exposition. Si ça, voilà, les choses s'articulaient un petit peu autour de cette pièce. Ensuite, les ressorts, ça a été un petit peu difficile, mais c'était laborieux, c'était beaucoup de travail. J'ai eu accès à ces éléments, les radiateurs, un peu sur le tard. Et donc, voilà, ça a été un peu difficile, mais sinon, j'ai pas rencontré de. Enfin, il n'y a pas eu de difficultés très très importantes.
Quand tu rates une œuvre, tu abandonnes ou tu recommences ?
J'aime bien ta question. Eh bien, en vérité, cela dépend. Il y a des choses que tu abandonnes assez rapidement, et d'autres que tu recommences. J'ai envie de te répondre que ce dont tu parles, c'est le travail de l'atelier, c'est-à-dire c'est quelque chose qui se déroule, qui se dénoue dans cet espace, l'espace de l'atelier. C'est un espace dans lequel tu éprouves les choses, tu fais quelque chose, tu vis avec, tu laisses le temps un peu défaire, faire les choses. Mais c'est très important. Moi, j'essaie par exemple que rien ne sorte de mon atelier, sauf ce qui, à mes yeux, j'en suis sûr, c'est bon, ça marche, on y va. Mais ça arrive assez souvent. Il y a des choses. Heureusement que ça arrive pas plus souvent que ça n'arrive. Enfin que. Bon, mais voilà, ça arrive et parfois, la pièce finit à la poubelle et puis c'est tout. C'est comme ça. Et puis tu ne recommences pas parce que tu vois que c'était une mauvaise idée.
Merci beaucoup. Au revoir.
Rendez-vous après les vacances, le jeudi 9 novembre, pour des inédits.
D'ici là, il y aura des rediffusions la semaine prochaine.
Et 24 heures sur 24 sur le site internet de Radio Cartable. Au revoir.
Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Libertaire 89.4. Vous allez écouter l'émission Bibliomanie, aujourd'hui présentée par Valère Marie Marchand, avec à la technique Flo Descailloux, que je salue au passage et qui nous réserve quelques surprises. Aujourd'hui, nous allons faire une belle balade en forêt en compagnie de Dominique Roque, que nous avons déjà reçu, qui est cueilleur d'essence. Nous avons parlé de parfums, la première émission que nous avons fait ensemble avec Dominique Roque, et qui vient de publier un livre passionnant qui s'appelle « Le parfum des forêts », sous-titré « L'homme et l'arbre, un lien millénaire » aux éditions Grasset. Alors Dominique Roque, bonjour.
Bonjour.
J'ai lu donc avec grand intérêt votre livre, qui est un peu pour moi le second volet, disons le volet complémentaire de votre première aventure, du Cueilleur d'essence. Et c'est un livre un petit peu paradoxal, je dirais, puisque vous parlez du bûcheron qui est censé, qui est l'homme qui abat les arbres, tout en faisant, et là c'est un peu un pari difficile, l'éloge de la forêt et des parfums de la forêt. Alors, comment est venue l'idée de ce livre, Dominique Roque ?
Bon, je crois que le livre, tout simplement, il est l'aboutissement de mon propre parcours, de ma propre passion pour les arbres et les forêts, qui est un jour rencontré celle du parfum. Et effectivement, je suis tout à fait lucide sur le côté un petit peu paradoxal de ce livre, puisque au fond, ce que je cherche à dire, ce que je ressens profondément, le message de base, c'est quand même, pour moi, les forêts sont éternelles. Mmh. Et elles sont éternelles, trois points de suspension, en dépit de ce que les hommes leur font. Et c'est cette affaire qui m'a passionné, c'est-à-dire, les forêts, elles ont 370 millions d'années qu'elles sont sur Terre, donc elles ont fait plein de choses avant qu'on arrive, nous. Et puis l'homme arrive, pendant quelques dizaines, peut-être même quelques centaines de milliers d'années, il ne se sert de la forêt comme d'un abri, un abri incroyable, un abri qui lui apporte tout, la sécurité, de quoi manger, la cohabitation avec les animaux. Et puis avec l'invention du métal, le monde bascule, véritablement bascule. Et je raconte l'histoire du premier bûcheron du monde, c'est l'âge de bronze, c'est loin, hein, on est en moins 3000. Et tout d'un coup, on va passer presque instantanément de l'arbre vivant à l'arbre mort. Mmh. Et c'est cette histoire que je trouve fantastique, qui est intéressante à raconter pour comprendre ce qu'est devenu les enjeux de la forêt aujourd'hui.
Enjeux de la forêt, vous dites, dans ce livre, j'ai voulu raconter l'histoire des arbres, de leur exploitation, partager le parfum de mes rencontres avec quelques forêts d'exception, dire la fragilité. Alors, c'est aussi votre histoire, toujours, hein, qui est entremêlée. Vos racines se mêlent aux racines des arbres, Dominique Roque. Et il y a un bel hommage à votre père, qui était bûcheron. C'était un aventurier, votre père.
Oui, je crois qu'il a été aventurier comme beaucoup de gens à la sortie de la guerre. Il y avait un appétit de vivre, un appétit de découverte, un appétit de laisser derrière l'horreur de ce qu'on venait de vivre. Et lui est parti aux États-Unis à la découverte de l'Amérique, qui était encore bien plus mythique en 1949 qu'elle ne peut l'être aujourd'hui. Et en cherchant des activités, en cherchant à vivre tout simplement, il a travaillé dans des scieries, puis il est devenu bûcheron, jusqu'à ce qu'il arrive en Californie et qu'il se retrouve à être bûcheron des plus grands arbres de la Terre, qui sont les séquoias de la côte ouest. Et évidemment, quand il nous racontait ça, à ma sœur et à moi, enfants, on était assez fascinés par ça. Et en plus, il avait ramené d'Amérique les premières tronçonneuses qu'il a pris sous son bras pour aller faire des démonstrations dans les forêts françaises qu'on exploitait uniquement à la hache. Mmh. Et donc j'ai vécu toute cette espèce d'immense tsunami de la mécanisation en forêt. Mmh.
D'ailleurs, vous écrivez votre respect des outils. J'ai du respect pour les outils, les haches, les scies, les tronçonneuses et le bois qu'elles façonnent. J'aime l'histoire des bûcherons. C'est vrai que c'est surprenant, parce que c'est vrai, vous nous dites tronçonneuse, moi toujours, massacre à la tronçonneuse. Vous voyez, ça évoque des images terribles, la tronçonneuse. Oui. Mais vous dites que pour l'arbre, en fait, ça a été, je dis pas un progrès, mais... La mort d'un arbre, voilà, ça a fait évoluer considérablement. Vous montrez la souffrance de l'arbre avec autrefois, enfin, c'était incroyable, quoi. On abattait l'arbre avec des coups de hache. Ça durait beaucoup plus longtemps, oui. D'ailleurs.
Je crois qu'en fait, derrière tout ça, il y a une question, je crois, qui n'est toujours pas résolue, que nous n'arrivons pas à résoudre, c'est que nous aimons la forêt. Mm. Beaucoup d'entre nous aiment la forêt, on voudrait la défendre, on voudrait la voir survivre, on la voudrait intacte, mais on adore le bois. On adore le bois et on a construit notre histoire d'humanité largement sur le bois. Et qui aujourd'hui serait prêt à renoncer à avoir du parquet ou avoir des meubles en bois, voire même, parce que je pense que c'est tout à fait formidable, on construit maintenant plus que des maisons, des immeubles en bois. Donc, cet attrait, cette attirance en disant on veut de la forêt, on veut du bois, quand on plonge un peu dans la réalité, que ce soit sous les tropiques ou dans les forêts tempérées, on s'aperçoit que ça nous met face à une contradiction qu'on a beaucoup de mal à résoudre. Et c'est ce que je conclus dans mon livre en disant qu'on est toujours en quête d'une réconciliation. Mmh. Et effectivement, pour passer de l'arbre, la splendeur de l'arbre dans la nature, sur lequel on pourrait écrire, alors, et ça a déjà été fait, une encyclopédie, à l'arbre bois, qui a aussi son mérite, et ben, au milieu, il y a l'abattage. Et cette histoire de l'abattage, depuis les haches, les premières haches en bronze sur le mont Liban, pour la coupe des cèdres extraordinaires de cette forêt, jusqu'à aujourd'hui, on en est arrivé où la mécanisation a dépassé l'entendement et on a des véritables moissonneuses à arbres maintenant qui opèrent dans les forêts. Eh ben oui, il y a ce parcours qu'on peut regarder de différentes manières, ou effectivement avec beaucoup de réserves, même d'horreur, ou en se disant bon, on a besoin des arbres, donc il faut un moment qu'on coupe les arbres. Le problème, c'est, je crois, tout simple, c'est couper les arbres, pourquoi pas, mais il faut couper le bon arbre au bon endroit et au bon moment. Et là, on n'est pas encore rendu là.
Oui, mais en même temps, vous montrez quand même qu'il y a le souci de la préservation de l'arbre. Hein. On va en parler tout à l'heure, mais vous montrez tout ça. Et puis, c'est une sorte, votre livre, une sorte de cri d'alerte aussi. Vous dites, en un peu plus d'un siècle, les hommes ont coupé la moitié des forêts de la Terre, donnant une accélération mortifère à un travail commencé il y a 4000 ans. Donc ça, vous êtes très... Voilà, il n'y a pas... Vous parlez du métier de bûcheron, vous parlez des hommes de la forêt qui sont très présents, et puis cette accélération terrifiante.
Oui, oui, je crois qu'il faut regarder les choses en face. Je crois que c'est pas la peine de plonger dans des statistiques très compliquées, etc. Mais il y a des chiffres qui sont frappants. Effectivement, le premier arbre, je l'ai dit, on le coupe autour de moins 3000, pour faire simple, donc il y a 5000 ans. Et jusqu'en... Depuis moins 3000 jusqu'en 1850, c'est-à-dire le moment où les Américains, sous la pression de la ruée vers l'or en Californie, vont s'attaquer à peut-être ce qui était la plus belle forêt du monde, c'est-à-dire les séquoias, eh bien ils le font avec exactement les mêmes outils. Rien n'a changé. De moins 3000 à 1850, rien ne change. En 20 ou 30 ans, les Américains, confrontés à ces géants, ces arbres absolument gigantesques, vont mettre leur génie, entre guillemets, au service de l'exploitation forestière et vont inventer, ils vont faire rentrer des treuils et puis ils vont faire des petits chemins de fer dans la forêt et puis ils vont inventer des scies un peu mécaniques, mues par la vapeur, jusqu'à ce qu'on arrive à la tronçonneuse. Et là, tout d'un coup, tout bascule. C'est-à-dire que de 1850 à 2000, eh bien, effectivement, c'est là où, en un siècle et demi, on va couper la moitié des forêts du monde.
Oui, il y a une industrialisation du...
Une industrialisation qui va de pair avec la prise de possession de la nature à travers tous les empires coloniaux. Là aussi, il y a une histoire extraordinaire, il faut se souvenir. C'est-à-dire que les Européens débarquent en Afrique. Au début, ce sont de frêles aventuriers qui risquent d'être engloutis par la forêt. Mais très vite, tout bascule. Et on va commencer à couper les forêts équatoriales d'Afrique. On va commencer à couper les forêts d'Amazonie, les forêts d'Asie du Sud-Est, et on ne s'arrêtera pas.
Ouais. Alors vous dites, par-delà tout ce qui a été écrit, chanté et raconté depuis bien longtemps, il suffit de marcher dans une forêt pour redevenir le premier homme. C'est vrai qu'il y a aussi l'autre basculement, c'est qu'au départ, l'homme est dans la forêt, et il y a un moment où il va quitter la forêt. Ça, c'est très important aussi dans votre livre, le moment où l'homme se libère de cette forêt qui l'apprivoise.
Oui, alors nous, on a évidemment, à notre époque, on a tendance à voir la forêt comme quelque chose d'absolument doux et pacifique et qui n'est que émerveillement. Il faut bien se rendre compte, on s'en rend compte dans la littérature, dans les récits des uns et des autres, que jusqu'à vraiment très récemment, la forêt est hostile. La forêt n'est qu'une source de danger. Sur le mont Liban, les premiers cèdres qu'on coupe, ça se passe dans des forêts où il y avait encore des lions, des fauves, il y avait même des éléphants de forêt. Enfin, c'est la forêt est un bestiaire.
C'est même monstrueux, enfin, c'est proliférant.
Et encore, à travers tout le Moyen-Âge, la forêt est hostile. Chaque conquête sur la forêt est une conquête bénéfique. Et il faut encore une fois attendre l'immense bascule que représente le 19e siècle pour qu'on comprenne, et en particulier en France ou en Angleterre, les gens vont ouvrir les yeux et tout d'un coup dire « Mais on n'a plus d'arbres !» On n'a plus d'arbres. Et pourquoi ils n'avaient plus d'arbres? Parce qu'ils avaient tout transformé en charbon de bois pour justement produire du métal. Et donc, je raconte ça dans le livre parce que ça me touche profondément. Je crois que c'est assez passionnant. Cette espèce de... On demande au bois, en gros, de courir lui-même à sa perte. On le transforme en charbon pour qu'il puisse forger les haches et les charrues qui vont contribuer à encore enlever les forêts. Et à la fin du 19e siècle, on a un exemple que presque tout le monde connaît en France, qui est celui de la forêt des Landes. Si Napoléon III décide de reboiser et de créer une immense forêt dans les Landes, bon, c'est parce que ça s'y prête, mais c'est surtout parce qu'on sait qu'on va manquer de bois. C'est terrible. Et donc depuis, on est dans cette course éperdue entre qu'est-ce qu'on peut prélever, qu'est-ce qu'il faut planter et comment il faut le planter.
Alors c'est un peu, le bois est son propre combustible, la forêt est son propre combustible. Et puis il y a une opposition entre la mobilité des hommes et l'immobilité des arbres. Et puis deux temps différents. La première fracture, c'est le temps, dites-vous. Quand les arbres et les forêts sont programmés pour une forme d'éternité, l'homme ne l'est que pour un instant. Éternité contre fugacité, le temps est le point de départ de cette altérité radicale. Fondamentalement mobile, l'homme compense la brièveté de sa vie par le déplacement. Mobile, immobile.
Oui, c'est très frappant. On pourrait bien sûr beaucoup discuter de ça, mais quelque part, je trouve que l'homme et l'arbre représentent deux sommets de l'évolution qui ont fait des choix, si on peut dire, totalement différents. L'arbre a fait le choix de s'établir dans un endroit. L'homme, lui, ne sait pas faire ça, et l'homme court en permanence à la surface de la terre. L'arbre, une fois qu'il s'installe, il n'y a qu'un accident qui peut mettre un terme à sa vie. Lui, il est programmé pour continuer à pousser toujours, à faire toujours des nouvelles feuilles, toujours des nouveaux bourgeons. L'homme, pas du tout. L'homme, il connaît sa finitude. Et c'est très, très beau dans... Je raconte ça, je reviens à l'affaire des cèdres. Cette histoire des premiers cèdres, des premiers coups de hache, du premier bûcheron du monde, elle est racontée dans une œuvre qui s'appelle « L'épopée de Gilgamesh ». Qui est le premier texte écrit de l'humanité qu'on a retrouvé dans des fouilles en Mésopotamie sur des tablettes. Et Gilgamesh, en fait, est en quête d'immortalité. Et quand il se rend compte que c'est une quête qui est vaine, il cherche une forme de ce qu'on est obligé de comprendre comme une forme de vengeance sur les arbres. Et il va voir les arbres, et il y a tout un combat contre le gardien de la forêt, donc on sent bien qu'il y a aussi toute cette idée de bascule où enfin l'homme prend la main sur la nature. Et il va couper des cèdres, et quand il coupe les cèdres, on sent bien qu'il dit « Ah, vous étiez éternel, et bien moi je suis capable de mettre un terme à votre immortalité, si ce que je n'ai pas moi. » Donc, très très tôt, dans les mythologies des hommes, dans leurs textes, dans ce qui les touche le plus profondément, ils prennent conscience de cette altérité fondamentale, et quelque part, d'une admiration qui fait place à un sentiment de frustration... Devant l'incroyable réalisation que constitue un arbre.
Bien sûr. Est-ce que l'arbre est l'avenir de l'homme? Parce que, par exemple, j'ai vu une émission récente, d'ailleurs, on montrait que l'arbre tire parti de son immobilité, de ce qu'il a, de sa station debout, si on peut dire. Il tire parti de la moindre fibre de son corps qui est verticale. Alors que nous bougeons, nous... Voilà. Et puis c'est vrai que les forêts, par exemple, sont un peu les parolières du silence. Vous dites, les forêts sont des réservoirs de silence et de vie au-delà de leur rôle décisif de capteurs de carbone. C'est des endroits où il y a du silence.
Alors, ce silence est absolument impressionnant. Et pour revenir à ce que vous dites sur l'immobilité de l'arbre, ce qui est fascinant, c'est que finalement, on est encore en train de découvrir ce qui se passe autour d'un arbre. Il y a des livres qui ont eu beaucoup de succès, qui ont été publiés et qui racontent un peu la découverte que, au fond, nous, on voit la partie émergée de l'arbre, mais il y a presque l'équivalent sous terre, avec ces réseaux incroyables, les arbres qui communiquent entre eux, les racines, aidés par les champignons, la façon d'aller chercher de l'eau, d'aller chercher de la nourriture. C'est tout à fait fascinant et je crois que tous les scientifiques sont d'accord pour dire qu'on n'a pas encore. Attendez, on est en 2020, quoi. On n'a pas encore tout fait le tour de tout ce qui se passe sous terre pour les arbres. C'est quand même fabuleux.
C'est fabuleux et vous dites à un moment donné, d'ailleurs, dans votre livre, qu'on n'a pas encore identifié tous les arbres.
Ah non.
Sous les tropiques, les arbres sont si nombreux que les botanistes n'ont pas fini de les identifier. Nous n'en connaissons qu'une infime partie par quelques noms de bois précieux.
Ouais.
Ça m'a ouvert des portes, oui. Je me suis dit, mais c'est... Et même récemment, là, on parle de la timidité des arbres, parce que leurs cimes ne se touchent pas.
Oui, alors après, il faut se garder de faire trop d'anthropomorphisme, mais tout ça est vrai. Ce qui est très intéressant, c'est que pourquoi on n'a pas fini de dénombrer les arbres? Parce qu'on se rend compte que plus on se rapproche de l'équateur, plus la biodiversité est hallucinante. Alors, c'est pas vrai que pour les arbres, c'est vrai pour tout, pour les insectes, pour les plantes, pour les animaux. Mais on va dire qu'en Sibérie, il y a une dizaine d'essences d'arbres. Nous, sous nos zones tempérées, on en a 100, 150, peut-être 200. Et quand on arrive en Amazonie ou à Bornéo, on va en trouver véritablement des milliers.
Oh là là,
on parle de 16 000, je crois, de mémoire, essences différentes d'arbres tropicaux. Et donc, non, on n'a pas fini de les identifier.
Donc, l'aventure continue.
L'aventure continue.
Alors, pour revenir à vous, Dominique Roch, c'est un livre où vous vous confiez en filigrane sur votre enfance. Les forêts, les arbres et les bois sont la toile de fond de mon enfance. Un décor resté vibrant dans ma mémoire. Le parfum n'est jamais loin des arbres, dites-vous. Il est devenu pour moi un fil conducteur, le témoin de la pérennité silencieuse des forêts. Parce que c'est vrai qu'on a l'impression que vous êtes initié à votre... Il y a une sorte d'initiation à la forêt, on pourrait dire.
Oui,
à un moment donné, quand vous êtes jeune et qu'avec votre père, vous apprenez à abattre un arbre, à le regarder, à faire sa connaissance, à le... Enfin voilà, on sent tout ça.
Oui, alors je raconte évidemment ce que j'ai vécu, mes souvenirs personnels, mais je crois que ce qui me paraît très intéressant, c'est que on se rend compte, si on garde l'exemple de nos contrées, de l'Europe, qu'au fond, première moitié du XXe siècle, la France est encore complètement rurale, et qu'au fond, tous les enfants de cette époque vivaient à côté des arbres, à côté des forêts, à côté des haies. À côté de l'arbre était omniprésent, l'arbre était partout. Et donc il y avait une familiarité, il y avait une connaissance. Et puis les choses ont glissé, on est allé vers l'industrie, on est allé vers un monde qui a complètement changé. Il y a eu la fameuse affaire de l'arrachage complet des haies des campagnes françaises, les déboisements, etc. Et au fond, on se retrouve dans une situation où aujourd'hui, il y a bien des chances que des tas de petits Européens soient loin des arbres.
Mmh.
Ils soient loin des arbres et en aient une connaissance finalement assez sommaire, assez lointaine. Donc ce qui pose aussi la question de l'avenir. Et est-ce qu'on va revenir auprès des arbres et faire revenir les arbres auprès de nous? Mais oui, moi j'ai été pétri de ça parce que j'étais de cette génération où il y avait encore beaucoup d'arbres. On habitait en face de la forêt de Rambouillet, on allait se promener dans les arbres, c'était une évidence. Et je crois que quand on a goûté à ça enfant, on en reste très marqué. Et le parfum au sens large, c'est-à-dire ce que sentent les forêts. Une forêt, elle commence à sentir au moment où on met le pied dedans. Parfois, elle sent la mousse, elle sent l'humus, elle sent presque l'eau. Et puis, le vent commence à balayer les feuillages. Pour peu qu'il y ait quelques pins qui soient là, on commence à sentir l'odeur des aiguilles de pin. Et on peut... progressivement découvrir que ce parfum des forêts, il est aussi dans les arbres et que donc quand on commence à couper des arbres, il y a des parfums, la sûre sent très fort, on en tire des huiles pour les parfums. Évidemment, la sève, toutes les formes de gouttes de sève, de résine qui sortent des arbres ont des parfums extraordinaires et tout ça est arrivé jusqu'à la palette des parfumeurs pour constituer un univers qui est une part très importante des parfums qu'on appelle les notes boisées.
Formidable, les notes boisées. Mais c'est vrai aussi, il y a un côté conte de fées dans la forêt. J'ai appris le métier de bûcheron dans une forêt jardinée de montagne, fruit du travail et de la vision de générations de sylviculteurs talentueux, où la trace des meules, des charbonniers était encore chaude. Plus loin, dans l'imagerie populaire, le bûcheron est l'homme de la lisière. Il entre dans la forêt pour couper son bois et en sort sa tâche accomplie. Le charbonnier, lui, est l'homme des bois. Il y vit et n'en sort pas. J'aime bien ces figures de personnages qui sont vraiment... On pourrait parler du Petit Poucet, on pourrait parler des contes de Grimm, des contes de Perrault. Mais c'est... La forêt, c'est un monde, c'est un imaginaire très riche, c'est un infini aussi.
C'est un monde qui a profondément marqué toute la conscience occidentale pendant des siècles et des siècles, depuis le Moyen-Âge. Il y a des récits à toutes les époques. Et on voit très très bien comment on passe progressivement de la terreur profonde, avec tout ce qu'on en retrouve dans les contes, à progressivement une forme de beaucoup plus de fréquentation, beaucoup plus sereine. Mais moi, j'ai tenu à raconter l'histoire des charbonniers parce qu'elle n'est pas forcément très connue, alors qu'il y a eu des charbonniers, au sens propre du terme, dans nos forêts en France jusqu'aux années 60. Jusqu'aux années 60. Et qui étaient ces charbonniers? C'est totalement extraordinaire. C'était des familles, la plupart du temps italiennes, qui venaient du Piémont, des traits de misère, et qui s'installaient en forêt, qui vivaient en forêt, dans des huttes, dans des cabanes, et qui travaillaient toute la journée à couper du bois et à le faire cuire, donc la cuisson du bois pour faire du charbon de bois, et qui n'en sortaient pratiquement pas. Quelquefois, ils n'en sortaient que le dimanche pour aller à la messe. Et on a des témoignages absolument extraordinaires de ce qu'était la vie de ces gens, dont on a du mal à imaginer qu'encore après-guerre, les gens vivaient comme ça. Et notamment, je raconte cette anecdote qu'on m'a racontée en Provence, où on découvrait que les enfants de ces charbonniers, pour pas qu'ils se perdent, on leur attachait des colliers autour du cou avec des grelots, un peu comme on l'aurait fait avec des chèvres, pour être sûr de pouvoir les retrouver dans les bois. Donc, vous parliez du petit pousset, oui, on est dans cet univers-là.
Et puis, vous faites, on en parlera tout à l'heure, mais il y a les peuples de l'Amazonie, il y a les peuples de la forêt qui sont comme à part le monde civilisé. Enfin, je veux dire, il y a des îlots de solitude dans la forêt, des peuples qui résistent à la consommation. Enfin, ça, vous en parlez dans votre livre.
Alors ça, c'est complètement bouleversant parce que ces peuples, et il y en a beaucoup, même si leur nombre a fondu tellement... On les a traqués, on les a pourchassés, on les a parfois exterminés. Ceux qui survivent sont des témoins de l'âge d'avant Gilgamesh. C'est-à-dire que ce sont des gens qui n'ont jamais formé de hache. Ce sont des gens qui continuent à vivre, non pas en exploitant la forêt, mais au contraire en symbiose avec elle, et qui ont totalement défini leur mode de vie et parfois, même la plupart du temps, leur croyance et leur façon de vivre, en fonction de la forêt, dont les dieux sont des arbres, qui savent la respecter, qui utilisent le bois qui est tombé, qui abattent des arbres très exceptionnellement. Et c'est donc fantastique. Ce sont les héritiers, les derniers lambeaux qui restent sur la planète des chasseurs-cueilleurs.
Vous écrivez, il est aussi étonnant qu'émouvant qu'une centaine de peuples autochtones survivent de nos jours en forêt tropicale, rescapés des deux derniers siècles où explorateurs, voilà. Et après, vous dites, les survivants sont comme une branche différente de l'humanité, des humains ayant choisi la continuité de la vie avec la forêt, sans aspiration à d'autres formes d'existence, sans besoin d'évolution. Donc là, c'est le temps premier.
C'est le temps premier, c'est bouleversant de penser que ces gens existent encore. Je ne sais pas ce qu'il faut souhaiter là. Évidemment, souhaiter qu'on sorte d'une ère qui a duré trop longtemps, qui est une ère de massacre, il faut dire le mot, et qu'on retrouve une forme d'apaisement pour que ces gens puissent continuer à vivre.
Alors, on va faire une pause musicale, puisque nous sommes dans le temps premier. Première pause musicale, Flo Descailloux nous réserve sans doute une surprise.
Oui, je suis passionnée par votre émission, et je suis sûre qu'Élisée Reclus aurait été passionnée par votre bouquin. Bon, mais ça, c'est facile de faire parler les morts. Alors, je vais vous parler de musique française au féminin par des femmes, donc des compositrices qui sont toutes les trois décédées. On va commencer par Claude Arieux, 1903-1990, quintette en ut pour quintette à vent, et ça va durer 1 minute et demie.
Thank you.
Cette pièce a été composée en 1953, retour sur Bibliomanie dans Radio Libertaire.
Eh oui, Dominique Rock, nous poursuivons notre conversation autour de Le Parfum des Forêts qui vient de paraître aux éditions Grasset. On parlait du temps premier, c'est un temps, c'est un temps apparemment immobile, mais où il se passe beaucoup, beaucoup de choses. Vous dites que la forêt est un rendez-vous silencieux avec les traces de l'histoire, des bribes de beauté soudées au paysage. Et puis, vous parlez de plusieurs, de quatre arbres, hein, j'ai bien calculé. Alors, il y a le hêtre, c'est le moins spectaculaire de tous vos arbres. Et puis, il y a le gaillac, je crois. Quelle est cette plante, gaillac, cet arbre, qui est absolument extraordinaire. Vous dites, c'est un arbre dont le bois possède de telles qualités que sa découverte m'a sidéré. C'est d'abord un des bois les plus denses sur Terre. Tout objet en gaillac surprend par son poids comme s'il était fait de pierre. Puis, je crois qu'il y a une couleur bleue.
Oui, alors, le gaillac, donc on est en Amérique du Sud, pas dans l'Amazonie, dont on parle en général quand on parle des forêts sud-américaines, mais au sud de l'Amazonie, à cheval sur l'Argentine et le Paraguay, il y a une forêt sèche, une forêt primaire qu'on appelle le Chaco, qui est une forêt extraordinaire dont je raconte l'histoire dans le livre. Et dans cette forêt, qui est une forêt extrêmement hostile, de couleur très grise, il y a très peu d'eau, elle est très peu arrosée, elle est pleine de piquants, elle est pleine de choses qui rendent sa pénétration très difficile. Et il y a des arbres absolument extraordinaires, dont le gaillac, qui est peut-être le roi de cette forêt. Et alors le gaillac, il est exploité par la parfumerie, parce qu'il donne une huile essentielle d'une odeur qui a une puissance fantastique, une odeur magnifique. Et alors il se trouve que par la présence de l'huile essentielle dans son bois, quand on coupe un gaillac, il devient bleu. Son bois devient bleu, et pas vaguement bleu, non, d'un bleu intense, presque d'un bleu roi. Valère Marie, je vois que vous avez une chemise bleue là, sous vos mains, c'est exactement ça. Et donc c'est fantastique, parce que nulle part ailleurs, moi j'ai jamais vu ailleurs dans le monde, des bois qui deviennent bleus. Alors il est merveilleusement beau, et évidemment, immédiatement, dès qu'on le coupe, il sent avec une odeur qui vous enveloppe, qui vous prend. Et, dernier élément dans cette affaire du gaillac, bien entendu, comme toutes les forêts primaires, la forêt du Chaco est menacée. Par quoi est-elle menacée? Le Paraguay est un des pays qui déboise le plus parce que il veut enlever sa forêt pour mettre à la place des pâturages, pour élever des bovins, parce que c'est une vraie grande source de richesse. Et là, on est sur tous ces éléments qu'on va retrouver aussi en Asie du Sud-Est, qui est la lutte entre la possibilité de valoriser des choses à la place de la forêt qui contribue à sa destruction. Et donc, le Chaco disparaît morceau par morceau, et je raconte dans le livre comment des gens s'attaquent au sujet en disant « Mais puisqu'on a la richesse du gaillac, il faut absolument arriver à trouver un modèle dans lequel la valorisation du gaillac contribue à sauver la forêt du Chaco. » Et c'est tout à fait passionnant, et je pense que c'est un des exemples des choses qui vont se passer de plus en plus à la surface de la Terre, où des gens vont avoir l'audace, l'intelligence, la fibre sensible de dire « On va trouver des solutions » pour sauver la forêt, éviter qu'elle disparaisse.
Alors c'est vrai, la forêt a des odeurs, elle a des couleurs. Il y a aussi, on pourrait parler de l'arbre arc-en-ciel, l'eucalyptus deglupta, dont vous ne parlez pas. Et puis vous parlez aussi d'autres arbres, mais il y a ce rapport, je vous disais tout à l'heure, aux outils. Par exemple, vous parlez de votre table de travail. Vous aimez bien vous ressourcer tactilement avec le bois. Ma table est en réalité un morceau de bois silicifié. J'aime que ce millefeuille de siècle ne se laisse pas pénétrer plus facilement qu'une pierre précieuse, compression ultime d'un décompte du temps qui nous dépasse. Vous aimez bien, voilà, vous toucher les arbres et avoir ce contact par la forêt, par des voies détournées.
Ah oui, mais là vraiment, j'ai tenu à raconter ça parce que c'est quelque chose qui m'a bouleversé. J'étais à Madagascar, puisque j'allais assez souvent à Madagascar dans ma quête de matières premières du parfum. Et un jour, je suis tombé sur une planche, ça avait tout l'aspect d'une planche, une grande planche de 3 ou 4 mètres de long, qui en fait était une plaque de bois silicifié. Et en discutant et en me renseignant sur tout ça, je me suis rendu compte que l'objet que j'avais sous les yeux est quelque chose qui a 220 millions d'années.
Voilà.
Donc imaginez ce qu'on peut ressentir quand vous avez le sentiment d'être face à quelque chose qui ressemble vraiment à une tranche d'un tronc de bois et qu'on se rend compte que ça a 220 millions d'années. C'est-à-dire que qu'est-ce qui s'est passé ? Ce sont ces bois qui ont été emprisonnés à la suite d'inondations ou d'éruptions volcaniques, à l'abri de l'air, et où se sont mis en place des processus où chaque cellule de bois, de lignine, a été remplacée progressivement par une cellule de pierre pour lui donner un aspect d'une grande plaque de marbre. Et c'est peut-être la meilleure illustration que j'ai trouvée pour essayer de faire comprendre la notion du temps des forêts. 220 millions d'années en quelques centimètres d'épaisseur, c'est totalement bouleversant.
C'est un voyage dans le temps extraordinaire, ouais. Immédiatement, à portée de main, on pourrait dire. Alors, le cèdre du Liban, on ne peut pas passer à côté, hein, quand même. La datation des cèdres est un sujet sensible au Liban. Bois précieux, réservé aux élites, le cèdre va rester destiné aux navires, aux temples et aux palais. Le cèdre confirme son statut d'arbre élu de la Bible, lui accorde à travers des multiples... Voilà, alors ce cèdre du Liban, c'est magique pour vous. C'est un chemin vers quoi ? L'éternité,
Alors c'est magique à tout point de vue. D'abord parce que historiquement, cette forêt qui faisait une centaine, peut-être un peu plus de kilomètres de long sur le mont Liban, elle a eu le malheur pour elle d'être équidistante de la Mésopotamie et de l'Égypte, et qui étaient les deux grands berceaux des premières civilisations où ces peuples avaient très peu de bois locaux. Et ils se sont retrouvés sur le Liban pour exploiter cette forêt. Donc première forêt du monde, l'affaire de Gilgamesh, premier bûcheron du monde. Et c'est une splendeur absolue, dont il ne reste presque rien. Mais ce qui reste, les arbres qui sont encore sur le mont Liban, sont stupéfiants. D'abord, ils sont immenses. Certains des troncs font 4 ou 5 mètres de diamètre. Ils sont absolument merveilleux. À travers leur ramure, on voit la Méditerranée en contrebas. Enfin, tout est fantastique dans cette histoire du cèdre du Liban, qui culmine peut-être, je le raconte, et je crois que tout le monde devrait connaître cette histoire, la fameuse histoire du roi Salomon et de la reine de Saba. Donc, on est en l'an 900. Le roi Salomon construit un palais et un temple pour faire réaliser ce que son père, le roi David, n'a pas eu le temps, n'a pas réussi à faire. Et il se trouve que la reine de Saba, dont on pense que c'était une reine de la région de l'Éthiopie, vient lui rendre visite. Et la reine vient avec ce qu'elle a de plus précieux et de plus beau, c'est-à-dire avec des caravanes de chameaux chargés d'encens. Encens, qui est une résine qui, bien sûr, vient des arbres de la corne de l'Afrique. Et elle arrive à Jérusalem. Le roi dit qu'on n'a jamais vu à Jérusalem autant d'aromates arriver. Et donc, on imagine la scène. On fait des fumigations de l'encens de la reine de Saba, c'est-à-dire de ce que les arbres de la corne de l'Afrique pouvaient donner de meilleur, dans le temple qui, lui, est absolument embaumé du parfum du cèdre, qui a une odeur fantastique. Et on prenait le cèdre pour le palais, autant pour ses qualités de bois de construction que pour le garnir de panneaux qui allait lui donner son odeur pendant des décennies et des décennies. Et cette rencontre, pour moi, c'est la naissance du parfum dans l'humanité.
Ah bah oui, parce qu'on peut dire que le parfum, c'est le messager de la forêt. Vous écrivez, les pins, sapins, eucalyptus sont des réservoirs de parfums inépuisables, évocateurs de l'idée de forêt, toujours recherchés comme source de bien-être, quelque chose de la souvenance lointaine d'un paradis sans homme. Et oui. D'ailleurs, vous racontez, je crois, une anecdote, à un moment donné, vous mettez dans votre poche... Je crois des fibres de pin, donc je me souviens plus, mais c'est à un moment donné quand vous êtes enfant, je crois. Oui. Hein,
enfant, mon père m'amenait avec lui dans des démonstrations de coupe d'arbres quand il devait rivaliser avec des bûcherons italiens à la hache et lui montrer ce qu'on pouvait faire avec une tronçonneuse. Donc j'ai des souvenirs de ça et je me souviens très bien que c'était dans des forêts de l'Isère. À la suite d'une démonstration, j'avais mis dans ma poche de la sciure de sapin dans une poche et de la sciure de hêtre dans l'autre. Et j'avais tout de suite perçu à quel point il y avait cette diversité d'odeurs absolument extraordinaire. Un hêtre, a priori, comme ça, ça sent rien. Mais quand on prend sa sciure, elle a une très belle odeur de feuillus, une odeur humide, une odeur très particulière. Alors que le sapin, lui, embaume des odeurs aromatiques, des odeurs qu'on connaît comme les odeurs de résineux. Et cette dualité m'avait marqué en tant qu'enfant.
Et voilà le hêtre, un arbre. Le hêtre symbolise pour moi l'identité des forêts européennes, le passage du monde originel au monde industriel, le témoignage encore vivant de la forêt initiale. Cet arbre remarquable, s'il n'a pas la longévité du chêne, peut vivre couramment 3 ou 4 siècles dans un monde où les bûcherons n'interviendraient pas. Formidable, adaptable, le hêtre s'est aussi installé dans les plaines où il forme de hautes futaies admirables, virant au jaune et à l'or. En automne, nous y sommes. Mais c'est vrai que cet arbre, alors là, il est moins spectaculaire, mais vous l'aimez bien.
Ah oui, alors j'aime beaucoup le hêtre. Et je pense qu'on va en parler beaucoup parce que c'est un de ces arbres dont on dit que le changement climatique va profondément bouleverser les stations d'existence. Probablement que le hêtre va être amené de plus en plus à se réfugier en altitude de façon à trouver fraîcheur et eau. Et je pense vraiment qu'il n'y a rien de plus beau qu'une forêt en mélange de hêtre et de sapin, un conifère et un feuillu, qui sous nos régions devrait être la religion absolue des forêts qu'on fait pousser.
Et le redwood, arbre qui peut vivre 2000 ans. Alors celui-là, c'est le gigantisme. C'est un arbre géant. L'écorce et le bois des redwoods sont quasiment imputrescibles. Les arbres qui tombent restent intacts pendant des décennies, source d'ancrage pour la croissance de nouveaux séquoias. Alors ça, on sent une fascination que vous avez pour... Mais c'est une expérience unique.
C'est une expérience unique. Je souhaite à tous nos auditeurs d'avoir un jour, d'une façon ou d'une autre, la chance d'aller jeter un coup d'œil dans le nord de la Californie. Il reste dans les parcs des lambeaux de cette forêt extraordinaire que, bien entendu, comme toutes les autres, on a massacré. Il en reste peut-être 2%, 2,5% de la forêt initiale. C'est une forêt qui est incomparable à aucune autre. Les arbres font 100 mètres de haut, ils font 5 mètres de diamètre à la base, ils poussent les uns à côté des autres. C'est tellement extraordinaire que beaucoup de ces forêts ont été utilisées pour des décors de films de cinéma quand on veut évoquer qu'on n'est plus sur Terre, qu'on est ailleurs. Et alors, toute cette histoire de l'abattage des séquoias et aussi des gens qui se sont consacrés très tôt à dire « Mais attendez, il faut absolument qu'on sauve des morceaux de cette forêt » est tout à fait passionnante. Elle illustre très très bien le cheminement de la relation des hommes avec les forêts. Mais c'est vrai que le spectacle de ces séquoias, on lève la tête et on peut pas voir la cime, elle est trop haute. C'est proprement fabuleux.
Il y a un côté Gulliver, vous décrivez bien cet émerveillement devant le gigantisme du tronc d'arbre. Spontanément, le spectacle de ce tronc m'évoque une baleine. Je le regarde comme un énorme cétacé végétal échoué, rapprochement d'un arbre et d'un animal, parent dans la beauté et la démesure. On est vraiment, on parlait du petit poussé tout à l'heure, nous sommes des hommes éphémères, des hommes et des femmes passagers de cette planète, et il y a ces arbres immobiles qui nous regardent peut-être, qui nous écoutent en tous les cas, et qui sont là, sont des présences silencieuses, Dominique Rock. Et puis il y a aussi cette affaire qui a fait beaucoup de bruit, elle, c'est l'affaire Julia Butterfly. Est-ce que vous pouvez nous la raconter? Je crois qu'elle a vécu en haut d'un séquoia géant, d'environ 1000 ans, afin d'empêcher que cet arbre soit abattu.
Ah, histoire très intéressante. Donc, ça se passe en l'an 2000, fin des années 90, mais Julia, elle symbolise l'émergence des courants des jeunes Américains partisans de l'écologie dans un certain nombre de domaines. Et très vite, ces Américains se sont mobilisés depuis les années 70 parce que, en dépit de la raréfaction des arbres, les compagnies forestières américaines continuaient à abattre des séquoias primaires. Et donc, ils ont essayé des tas de modes de protestation, on s'enchaînait aux armes, etc. Et puis, un jour, il y a eu l'idée de dire, on va monter, se mettre dans un séquoia, comme ça, les bûcherons ne pourront pas abattre l'arbre, sinon, ça serait nous tuer. Et Julia a donc fait partie de ces gens, mais elle, ce qui est extraordinaire et exceptionnel dans son histoire, c'est qu'elle est montée un jour pour prendre la relève. Elle était membre d'une équipe. Elle pensait qu'elle montait pour 3 jours. Elle n'est jamais redescendue pendant 2 ans. Ça défie l'entendement. Donc elle était évidemment ravitaillée par des gens en montant. Alors quand on dit qu'elle est montée dans un séquoia, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elle est montée dans un séquoia qui était très riche en branches, mais haut, parce que le séquoia, au départ, il fait pas de branches. Elle était donc à 60 mètres de haut. On a du mal, on n'a pas beaucoup d'arbres hein, en Europe qui font déjà 60 mètres de haut. Donc celui-là devait en faire 80, et elle était à 60 mètres de haut sur une petite plateforme de planches qui avait été confectionnée de 2 mètres sur 3, je crois. Et donc, ce qui est tout à fait fascinant dans l'histoire, c'est qu'elle a entamé une histoire profonde d'amour, amour entre une femme et un arbre. Et c'est quelque chose d'assez nouveau et qui s'est beaucoup développé depuis avec le tree-hugging et tous ces phénomènes de bains de forêt qu'on voit maintenant apparaître dans plein d'endroits. Et donc, elle raconte, elle a fait un livre là-dessus, elle raconte cette histoire d'amour qui culmine avec quelque chose d'absolument inouï, c'est-à-dire qu'une tempête un jour a déferlé sur la forêt et que pendant 2 jours et 2 nuits, elle a cru véritablement mourir parce qu'elle a cru qu'elle ne pourrait pas rester sur la plateforme. Et elle est donc restée cramponnée à une branche réellement pendant des heures et des heures et elle a survécu. Et elle avait donné un nom à l'arbre, Luna, et elle raconte toute cette histoire, toute cette relation. Et puis elle a fini, à force d'abnégation, la compagnie forestière a mis très très longtemps, vous rendez compte, pendant 2 ans, des négociations, non, on veut pas, etc. Finalement, ils ont accepté de sauvegarder l'arbre et puis une petite zone autour. Elle a accepté de redescendre. Et il y a une fin, pas tout à fait tragique, mais presque, puisque probablement par vengeance, une fois qu'elle est descendue, quelqu'un est allé essayer d'abattre clandestinement l'arbre. Il a été coupé, je crois, sur sa moitié, mais il a survécu et maintenant, il va bien.
D'ailleurs, oui, vous parlez de la mutilation aussi des arbres, ouais. Hein, vous en parlez. Percer le cœur d'un arbre pour y faire passer un moteur me paraît une chose hideuse, une mutilation absurde pour une prise de pouvoir pathétique de l'homme destructeur sur l'arbre merveilleux. Donc, il y a beaucoup de mutilations en France, hein, moi j'en ai été témoin, il y a des gens même qui greffent leur boîte aux lettres sur des arbres, enfin c'est un peu... On oublie que l'arbre est sensible et vivant et c'est vrai que là on pense à, par exemple, c'est une notion littéraire, parce que l'aventure de cette femme, ça nous fait penser au Baron Perché d'Italo Calvino, par exemple, hein, un merveilleux roman. Ou alors, à un moment donné, vous dites « Les premiers bûcherons de Californie ressemblent aux coupeurs de cèdres de Gustave Doré ». L'image de Gustave Doré est très... Les gravures, moi j'y ai pensé beaucoup en lisant votre livre, oui. Dominique Roque.
Oui, une gravure fabuleuse. Gustave Doré a illustré une Bible, 1870 je crois. Et il y a toute une série de gravures, dont une, c'est l'abattage des cèdres du Liban. Et on regarde ça, évidemment il fait ça avec sa sensibilité extraordinaire d'homme du 19e siècle. Et on ne sait plus si on est avec les séquoias de Californie. Ou les cèdres du Liban. C'est très très beau, c'est merveilleux.
C'est beau, hein. On va faire une pause musicale et nous poursuivons notre balade en forêt.
Alors nous continuons avec un disque enregistré par les musiciens et musiciennes de l'ensemble Latitude. Cette fois c'est Mel Bonis, une musicienne née en 1858 et morte en 1937, une compositrice qui a écrit... Suite dans le style ancien et l'extrait s'appelle Fuguette. Thank you. La compositrice Mel Bonis a composé cette fuguette en 1928.
Dominique Roque, nous poursuivons notre balade en forêt avec vous, avec Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un lien millénaire. Ça vient de paraître aux éditions Grasset. Alors, ce qui est aussi intéressant, il y a plusieurs lectures qu'on peut faire de votre livre. Ce sont, vous éclairez un peu les premiers écologistes, c'est-à-dire quels ont été les premiers lanceurs d'alerte. Par exemple, vous parlez de l'empereur Hadrien. J'ai pensé, tiens, c'est pas pour rien que Marguerite Yourcenar, qui était écologiste, se passionnait pour l'empereur Hadrien. Vous écrivez, comme l'aura été à sa façon l'empereur Hadrien sur le mont Liban, plus d'un millénaire auparavant. Voilà, vous parce qu'il a, il a été le premier à vouloir sauver les forêts. Et aussi Philippe VI, je crois. Hein. Et vous parlez d'ailleurs de l'ordonnance de Brunois, si je me trompe, de 1346. Alors, je vais vous citer pour l'empereur Hadrien. Après des siècles d'une exploitation apparemment sans limite, l'empereur romain Hadrien, en visite à Byblos, constate la dégradation des forêts au point d'ordonner que l'on grave des bornes indiquant que l'accès à la coupe des arbres lui est réservé. C'est important, ces premiers lanceurs d'alerte là, Dominique Roque.
C'est tout à fait passionnant parce que c'est la, on suit bien cette dualité. Les hommes ont toujours plus d'appétit. Pendant très très longtemps et jusqu'à très tard, on considère que la nature est sans limite, que c'est un réservoir inépuisable, jusqu'à être confronté en fait à la réalité. Et je pense, on le sent très bien, hein, sur le mont Liban, toutes les civilisations de l'Antiquité se sont succédées, on a des descriptions qui sont hallucinantes, les Perses débarquent sur le Liban pour couper les cèdres, pour faire une flotte entière, pour aller combattre les Grecs, et les Grecs leur rendent l'appareil ensuite, dans les guerres qui se livrent. Et puis les Mésopotamiens, les Assyriens, enfin c'est... On se demande, et effectivement, on a la réponse, c'est-à-dire que vous rendez compte, quand Hadrien fait ça, nous on n'a même pas commencé le Moyen-Âge, on n'a pas commencé à exploiter nos forêts, que déjà, on se rend compte qu'il y a un problème. Et à plusieurs étapes de nos civilisations, on va, à chaque fois, des gens vont faire le constat en disant « Attendez, on ne peut pas continuer comme ça ». Il y a un exemple aussi très célèbre, qui est l'affaire de Colbert. Dans les donc 17e siècle, la guerre partout, Louis XIV, etc. Et on a besoin d'une marine de guerre. Et on s'aperçoit qu'on ne va pas avoir assez de bois pour faire les navires de guerre dont on a besoin. Et donc Colbert met ça tout à fait sur le dessus de la pile en prenant des mesures draconiennes pour limiter les abattages et surtout pour organiser des replantations et des sauvegardes, notamment de chênes, qui est vraiment le bois dont on a besoin pour les navires. Et ces efforts de Colbert, et ça c'est très très émouvant, notamment dans la forêt de Troncet, en a toujours le résultat aujourd'hui, avec des chênes qui sont multimillénaires et multicentenaires, pardon, et c'est tout à fait extraordinaire. Et ça, il y a beaucoup d'endroits dans le monde où, à un moment, il y a des poches de lucidité qui arrivent et où les gens font des choses tout à fait remarquables. Et ils le font en sachant qu'ils n'en verront pas les résultats, mais que ce sont les nouvelles générations qui en auront le bénéfice. Et toute la relation des hommes avec la forêt, elle tourne autour de ça. Puisque nous ne sommes pas sur la même échelle de temps, il faut que moi, homme, j'ai le courage et la lucidité à un moment de faire abstraction de la brièveté de mon passage pour au contraire préparer la suite.
Préparer la suite. Et vous écrivez, le roi de France Philippe VI devient le premier lanceur d'alerte à la déforestation de l'ère moderne par son ordonnance de Brunois de 1346, une forme de code forestier qui réglemente l'exploitation de la forêt. Pourriez-vous nous éclairer sur cette fameuse ordonnance de Brunois?
Ben c'est un document qui aujourd'hui fascine un peu tout le monde parce qu'on est très tôt, hein, on est au 14e siècle. Et il emploie déjà des termes et un vocabulaire pour définir ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas. Et il fait apparaître le mot « soutenable ». Le mot « soutenable » qui est apparu chez nous finalement bien récemment, là, il y a une quinzaine d'années, hein, la sustainability, la durabilité des choses. Et lui, il pose cette question-là au XIVe siècle.
Ben oui, parce que vous parlez, par exemple, à un moment donné, du sentiment écologique. vous en parlez, vous dites, voilà, il y a ce sentiment. Pourquoi avoir utilisé cette expression de sentiment écologique ?
Et parce que je vois ça comme cette histoire des forêts, au fond, c'est une succession de vagues, une succession de vagues d'ampleur différente. Certaines de ces vagues, c'est la rage de tout abattre, de tout conquérir. Et à d'autres moments, il y a des vagues de prise de conscience. Dans notre époque, pour des choses qui nous évoqueront des souvenirs à tous, la prise de conscience écologique, alors on va dire en France, c'est probablement le naufrage du Torrey Canyon, d'autres vont avoir d'autres points de repère. Pour les Américains, la prise de conscience de la défense des derniers centaines d'hectares de séquoia primaire est un des facteurs de prise de conscience du mouvement écologique. On est en 1970. Tout ça, c'est les années 70. Je dirais, pour ceux qui ont connu ça, c'est Charlie Hebdo et c'est les dessins, j'en parle dans le livre, prémonitoires et extraordinaires du génie qui était Reiser, le dessinateur de Charlie Hebdo, qui avait déjà vu avant tout le monde tout ce vers quoi on allait et tout ce à quoi on allait être confronté. Et je pense que beaucoup des réalisations positives qu'on fait aujourd'hui sur la défense de la forêt, sur la reforestation, sur les replantations, sont quand même en grande partie l'héritage d'un mouvement né dans les années 70 et qui n'a fait que s'accentuer.
Mais ce qui est intéressant dans votre livre, Dominique Roque, c'est que vous dites qu'il y a façon et façon de défendre un arbre. Vous dites beaucoup de gens aiment les arbres, un peu, beaucoup passionnément à la folie, et d'autres plus nombreux, pas du tout. Beaucoup plus nombreux, pas du tout. Il y a différentes rencontres avec l'arbre, il y a différents regards sur l'arbre. On peut avoir aussi un regard effrayé en ce qui concerne la forêt. La forêt, c'est un groupe d'arbres, c'est un collectif, c'est un labyrinthe. On peut avoir peur en forêt. Il y a beaucoup de nuances, j'allais dire, dans votre, dans votre livre. Vous ne faites pas, c'est pas, voilà, vous dites je ferme les yeux en pensant que où que l'on se trouve, tous les bois sentent, ils recèlent toutes les gammes de parfums. Ça, c'est pour vous. Mais vous soulignez bien que tout le monde n'est pas comme vous, que tout le monde n'est, enfin, tout le monde a un regard différent sur la présence de l'arbre et sur la nécessité aussi de défendre ces espaces-là.
Alors, vous avez tout à fait raison. Ce que je cherche à illustrer, c'est la chose suivante. Quand on fait le constat de l'état des forêts sur la planète, en gros, on va dire, bon, il y a des problèmes partout, mais enfin, les problèmes énormes, c'est sur les forêts tropicales primaires, c'est-à-dire les gros bassins, c'est l'Amazonie, c'est le bassin du fleuve Congo, et c'est l'Indonésie. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que, en tant qu'occidental, avec notre sensibilité d'aujourd'hui, on voudrait que tout s'arrête, que tout ça soit sanctuarisé. Et on a raison, au sens où les scientifiques apportent tous les jours des preuves que chaque fois qu'on rogne cette forêt, qu'on la réduit, on rogne en quelque sorte le poumon, puisque ce sont d'immenses usines à fabrication d'oxygène à captation de CO2. Donc on a raison. Le problème, c'est que pour sanctuariser toutes ces forêts, sur place, des gens habitent. Et ces gens-là n'ont pas les mêmes attentes, n'ont pas forcément les mêmes valeurs et la même vision que nous. Moi, j'ai cet exemple que je raconte dans le livre de Bornéo, où je suis allé plusieurs fois et où j'étais sidéré. C'est-à-dire que j'ai eu une véritable nausée à la vue des milliers d'hectares de forêts primaires qui étaient poussées au bulldozer et brûlées pour planter du palmier à huile. Et mon chauffeur, qui me faisait circuler dans le pays, lui n'avait de cesse de m'expliquer que c'était extraordinaire. Et est-ce que je m'en rendais compte que c'était formidable ? Parce que ça créait de la richesse pour son village, pour ses voisins, pour sa famille, les usines de traitement de palmier à huile. Et donc, quel regard porter sur ça ? Quel regard porter sur ça ? Qui a raison, qui a tort ? Alors, il a écologiquement, certainement, complètement tort, mais lui, pour son destin d'homme sur place, pas forcément. Et on retrouve la même chose avec les pâturages au Paraguay. Le Paraguay, ils veulent bien, c'est pas des gens qui sont intrinsèquement mauvais, mais ils disent, oui, mais attendez, nous, on est un tout petit pays, on n'a pas beaucoup de richesses, la seule chose qui marche chez nous, c'est d'élever des bœufs. Alors, ne nous demandez pas de ne pas faire de pâturage. Et quitte à sacrifier leur forêt. Donc, il y a une espèce de balance dans beaucoup d'endroits du monde où on voit bien que le regard sur l'arbre n'est pas le même.
Ouais, c'est... Vous dites le bilan de la sanctuarisation est contrasté. Les surfaces protégées augmentent dans le monde, c'est une vraie tendance, mais la réalité de leurs résultats sur le terrain est très discutée. Effectivement, voilà, il y a toujours. Oui, c'est un débat, hein. c'est pas gagné. Enfin, je veux dire. Et puis comment? Parce que vous dire, nous sommes tous demandeurs de solutions, c'est vrai. Mais comment la solution va-t-elle advenir?
Ouais, c'est compliqué. Il y a des livres, des études qui ont été publiées récemment sur des cas où on a voulu faire des parcs nationaux entièrement fermés, réservés, etc. Je pense à des exemples en Éthiopie et on s'est aperçu qu'on a fait ça très très mal. Ça a provoqué la révolte des gens qui vivent sur place. Ce sont des sujets. Vraiment compliqué. On peut pas d'un claquement de doigts dire on va tout sanctuariser puis c'est fini, on n'en parle plus. Non, il va falloir beaucoup d'intelligence, beaucoup de prise de conscience, beaucoup de ténacité. Je cite ça aussi. Avant, toutes ces forêts étaient exploitées avant tout pour leur bois. Maintenant, c'est pas pour leur bois qu'elles sont exploitées, c'est pour libérer de la place pour faire de l'agriculture. Je citais le cas du palmier à huile en Indonésie, le cas des pâturages en Amérique du Sud. Donc, on voit bien qu'on a une équation qu'il faut résoudre, c'est-à-dire comment est-ce qu'on peut à la fois avoir suffisamment de terres agricoles à cultiver et en même temps ne pas défricher la forêt. Alors la solution, elle paraît relativement évidente, c'est de planter. Et là, on arrive sur le problème de oui, planter, mais planter quoi et planter comment et qu'est-ce que c'est que des vraies plantations forestières.
Bon, on va faire une pause musicale et nous allons apprendre à planter peut-être des livres, des rêves, un peu d'imaginaire.
Vous allez écouter toujours par l'ensemble Latitude, une compositrice qui s'appelle Elsa Baren, née en 1910 et morte en 1999. Et c'est le final d'une œuvre qui s'appelle Ouvrage de dame. Et c'était composé en 1937. Ça dure à peu près 3 minutes. Thank you.
Radio Libertaire 89.4. Vous écoutez l'émission Bibliomanie, aujourd'hui en compagnie de Dominique Croc pour Le Parfum des Forêts qui vient de paraître aux éditions Grasset. Dominique Croc, j'ai envie qu'on parle d'un petit chemin peut-être dans tout ça. Les haies, c'est important, les haies sont des petites forêts couloirs, des îlots de biodiversité avec elles l'arbre commence à retrouver une place près de nouveaux agriculteurs dans des démarches plus respectueuses des sols regroupés sous le terme d'agroforesterie. C'est vrai que les haies, on a beaucoup parlé, on en parle pas assez, de la disparition des haies, de finalement de tous ces petits pans de chemin, de territoire, de connaissances de la nature qui disparaissent, mais j'espère qu'ils vont réapparaître. Parce que c'est ça aussi la véritable écologie.
Oui, la haie probablement est en train de devenir en tout cas un symbole. Là aussi encore de quelque chose de non résolu, c'est-à-dire comment faire de l'agriculture en France, si on prend l'exemple de la France. Donc je crois que tout le monde connaît l'histoire, on est bien conscient. On sort de la guerre, on a des besoins colossaux partout. Et donc on se rend compte qu'il va falloir faire des exploitations qui dépassent largement le cadre de l'exploitation familiale, qui est le modèle traditionnel agricole. Et donc, on commence à faire des grandes exploitations. Faire des grandes exploitations, il faut des grands champs. Et partout, en tout cas dans tout l'ouest de la France, dans le sud-ouest, partout, le terrain est bocager. Il est sillonné, tracé, protégé par des haies. Et on va tout foutre en l'air de façon incroyablement spectaculaire et réussie, si on ose dire. Et donc, disparition de la haie, en tout cas dans de très fortes proportions. Et puis arrive ce que tout le monde connaît, ce dont on débat maintenant depuis quelques décennies, c'est-à-dire tous les effets secondaires de l'agriculture industrielle, et notamment toutes les conséquences de la disparition de ces haies à tous les niveaux. Alors ce sont des conséquences sur les sols, sur des problèmes d'érosion, sur des problèmes de rétention d'eau, et puis des problèmes de supprimer ce qui était des berceaux, effectivement, de vie animale et de biodiversité. Sans parler du fait que c'était la tradition de la vie paysanne. On avait des arbres qu'on élaguait régulièrement pour faire du bois de chauffe et se chauffer l'hiver. Donc on assiste, en tout cas il y a des débats très, très importants, très marqués, pas si anciens que ça, mais disons depuis une dizaine, quinzaine d'années, qui consistent à dire faisons machine arrière, il faut absolument redonner sa place à la haie, et il faut planter des haies. Alors peut-être pas exactement comme on le faisait avant, mais c'est pour ça que je parle d'agroforesterie, c'est-à-dire qu'il y a vraiment des études sérieuses, passionnantes, qui disent comment il faut planter des haies, à quelle distance, à quelle densité, quelles sont les essences qu'il faudrait mettre, il faut mettre combien d'arbres. Et on voit régulièrement, on voit des reportages sur des réalisations vraiment très spectaculaires d'agriculteurs qui témoignent du bénéfice immédiat de l'effet de ces haies sur leur culture. Donc, la reconquête d'un certain nombre de paysages ruraux français par la présence de haies me paraît, alors on n'est peut-être pas dans l'absolu forestier, on sort de la forêt elle-même, mais effectivement, ce sont de petites forêts et c'est formidable de partir à cette reconquête.
Et puis c'est une lecture du paysage aussi, une réécriture et une lecture du paysage, Dominique Croc. Pour revenir à notre discussion de tout à l'heure, vous écrivez « Pour satisfaire l'accroissement massif des besoins de bois et de terres cultivables, le 19e siècle va inventer le recours aux plantations artificielles. » Et vous soulignez la problématique des plantations artificielles. Vous dites « Dès leur plantation massive après 1850, les pins ont fait polémique parce que destructeur d'un équilibre agro-pastoral historique. » Donc justement, mais planter sans se planter, c'est le cas de le dire. Planter comment ? Et vous parlez d'ailleurs aussi, là je fais un saut dans votre livre, de la grande muraille verte. Il faudrait que vous nous expliquiez qu'est-ce que c'est, en Chine, je crois.
Oui, alors l'affaire des plantations de bois, c'est un immense sujet qui est compliqué.
Nous sommes lancés, là, ça y est.
Non, oui, c'est un immense sujet parce que... Évidemment que planter, donc ce sont des entreprises qui vivent de la production du bois, qui vont s'attaquer à ça, et qu'est-ce qu'elles veulent ? Elles veulent de la rentabilité. Donc le modèle qui est issu de tout ça, c'est de planter des essences uniques à forte densité, de façon à ce que le rapport soit le meilleur possible. Alors, l'exemple historique le plus connu, c'est effectivement celui de la forêt des Landes, mais il est un peu particulier parce que dans la forêt des Landes, même si je fais allusion au fait que ça, les plantations intensives et la couverture totale de 1 million d'hectares du massif des Landes a été un traumatisme pour la vie des bergers, pour la vie qui était la vie traditionnelle du coin. Au fond, ça a réjoui tout le monde parce que ça a été la création d'une source de richesse phénoménale et qu'en plus, sur ces terrains, on peut véritablement pas mettre grand-chose d'autre que du pin maritime. Donc, il y avait quand même une forme de consensus avec le fait qu'il y avait une double source de richesse. Et là, on rejoint absolument le parfum, c'est-à-dire que les pins étaient évidemment gemmés avant d'être abattus et de faire du bois. Et donc, il y avait toute cette industrie de la gemme et de la résine dans les Landes de Gascogne, qui a été quelque chose de fabuleux et qui, là aussi, a duré jusque dans les années 70. Donc, double source de richesse. Mais ce qui n'empêche pas les Landes d'être aujourd'hui critiquées en disant « Mais vous rendez compte, on a enlevé les feuillus qui protégeaient les rivières et puis on devrait faire de la diversification. » Enfin, il y a des tas d'avis. En gros, le grand débat, on le retrouve dans la forêt des Landes, mais ailleurs, c'est monoculture ou pluralité d'essence. C'est ça le vrai débat. Évidemment que les écologistes plaident très fortement pour une pluralité, une diversité d'essence, alors que un certain nombre d'industriels, pas tous, eux sont des partisans de la mono-essence. C'est notamment, il y a un exemple aussi très, dont on parle beaucoup en France, c'est les paysages du Morvan qui ont été complètement transformés, qui étaient des paysages qui alternaient des feuillus et des résineux qu'on a entièrement transformés en y plantant du pin Douglas, qui est l'arbre venu des États-Unis qui en France a fait la preuve de la meilleure productivité. Donc voilà, productivité contre moins de productivité. Donc c'est compliqué. Et à l'échelle de la planète, il n'y a pas qu'en France, on parle de la France.
Oui, voilà.
À l'échelle de la planète, au fond, il n'y a que deux essences qui sont utilisées pour produire du bois. Il y a le pin, diverses formes de pin, enfin le pin, et l'eucalyptus. Et ça, dans des proportions, les pays qui ont beaucoup reboisé, la Nouvelle-Zélande, le Chili, mais il y en a vraiment beaucoup, on parle de millions et de millions d'hectares. Donc on parle de transformation de la nature des sols, des paysages qui sont colossales. Et les forestiers qui font ça, s'ils m'écoutaient parler et qu'ils pouvaient me répondre, me diraient « Mais attendez, comment voulez-vous faire, si on ne fait pas ça, pour avoir suffisamment de meubles IKEA et de toutes le bois dont on a besoin ?» Donc c'est un immense débat. C'est vraiment un débat, c'est un débat ouvert. Qu'est-ce qu'il faut faire ? Moi, je dis dans le livre, ce que je pense profondément, c'est qu'au moins, en France et dans l'Europe tempérée, on sait quel est le modèle, en gros, idéal. Et le modèle idéal, c'est les forêts jardinées, c'est-à-dire que ce sont des forêts dans lesquelles on fait cohabiter des feuillus et des résineux, et dans lesquelles on vient prélever des sujets mûrs, une fois qu'ils ont un bon âge d'abattage, et qu'on laisse prospérer les autres et grossir. Ça existe, il y a des tas de représentations de ça, donc c'est pas du tout utopique. Simplement, c'est probablement moins immédiatement productif que les plantations de mono-essence. Donc ça reste un grand débat.
Ça reste un grand débat. Et la Grande Muraille Verte, qu'est-ce que c'est exactement ? Moi, j'ai découvert ça en lisant votre livre. C'est une initiative, c'est quoi ?
Il y a deux initiatives dans le monde qui sont un peu comparables, une en Afrique et une en Chine, qui consiste à dire, dans la lutte contre la désertification et contre les déserts, il faut absolument qu'on cherche des solutions à partir des arbres. Donc il y a un projet qui consiste à planter une ceinture qui ferait 11 000 km de long, qui démarrerait du Sénégal pour aller jusqu'à la sortie du Sahel, et qui est en cours depuis, je ne sais pas, mais enfin, à ma connaissance, depuis au moins 15 ans. C'est très compliqué, il y a beaucoup d'échecs, c'est difficile, hein. On plante dans des régions où il n'y avait pas d'arbres, il faut donc qu'ils survivent, il faut que les gens du coin soient d'accord, que ça leur apporte quelque chose, que ça convienne à leur tradition, à leur mode d'élevage, et des arbres qui sont mangés par les chèvres, enfin bon. Mais il n'y a pas que des échecs. Il y a des endroits où, notamment quand les arbres sont bien choisis et qu'ils ont aussi une valeur, par exemple d'apporter des noix qui sont nourricières ou qui peuvent être des sources de cosmétiques, il y a des belles réalisations. Et le deuxième projet similaire dans des conditions très différentes, c'est la Grande Muraille Verte en Chine, où là aussi, pour empêcher le désert de Gobi de progresser, en tout cas freiner sa progression, les Chinois ont entrepris quelque chose d'absolument gigantesque en mobilisant des bataillons entiers de soldats pour faire ça. Même constat, ces projets sont tellement larges, tellement vastes, tellement ambitieux qu'il y a énormément d'échecs, on fait beaucoup d'erreurs, mais je pense que le fait que ça existe, qu'on ait fait naître ce concept que peut-être il fallait commencer à se dire que les enjeux sont tellement colossaux pour la planète qu'il faut avoir dans les réflexions forestières, il faut avoir vraiment des ambitions très très élevées, c'est positif. J'en retiens que c'est positif.
Et autre initiative, celle de votre père avec l'Arboretum. Très beau mot, arboretum. Il y a 30 ans, mon père a voulu rendre son propre hommage aux arbres en créant dans les Landes ce qu'on appelle un arboretum, un endroit où l'on rassemble une grande diversité d'arbres selon ses goûts et les capacités du lieu choisi. Il y a planté 1000 arbres. C'est merveilleux ce mot d'arboretum, c'est un musée de l'arbre vivant, un musée vivant de l'arbre. Quelle est votre définition de l'arboretum, Domenico ?
Non, l'arboretum, c'est un endroit où on fait des collections d'arbres.
Voilà.
Alors, des collections, vous avez des... Alors, il y a des arboretums fantastiques en France, hein, un peu partout, extraordinaires. Il y en a qui sont très célèbres, arboretum des bars. Enfin, voilà, j'ai rien inventé du tout.
Non.
par exemple, en Corrèze, il y a un arboretum entièrement dédié au chêne. Et c'est là où on s'aperçoit que, nous, le chêne, c'est un mot. Mais en fait, il y a au moins 150 ou 200 espèces de chênes différents à la surface du globe. Donc, c'est assez merveilleux de tâcher de les rassembler et de montrer leur diversité. Voilà, les arboretums. Donc, les arboretums, pour moi, ça fait partie d'une de ces formes de rendre hommage aux arbres. Et il y en a énormément de façons différentes de le faire. Des initiatives dans les villes, des initiatives...
C'est une sorte de conservatoire de l'arbre,
oui.
On parle. D'ailleurs, il y a une dizaine à peu près en France. Enfin, moi, je me souviens pas.
Conservatoire. Mais des arboretums, il y en a plus que ça.
Il y en a
vraiment beaucoup. Ce sont souvent des initiatives privées qui sont faites par des passionnés et voilà, qui font prospérer ça, qui ouvrent ça au public pour essayer de montrer ce que la merveille de la diversité des arbres peut être.
Eh oui, c'est une grande aventure. Alors, pour revenir aussi à votre histoire personnelle, Dominique Roque, vous écrivez encore je commence à m'habituer, tous les bois de cette forêt sont lourds, tout est dense, comme si chaque arbre voulait emmagasiner la force de résister, de croître lentement pour durer longtemps. La forêt est une résistance à l'accélération du temps, c'est un autre temps. On a l'impression, voilà, c'est de savoir vivre avec sa propre temporalité, avec ses souvenirs. Et on sent dans votre livre, c'est presque un arboretum aussi, on sent que vous prenez le temps de l'arbre. Cette notion de temps, même d'effort, parce que vous dites, par exemple, pour les temps anciens, dans ces montagnes escarpées, je cherche à comprendre comment les hommes ont pu abattre, ébrancher et transporter sur terre et sur mer ces arbres aux dimensions colossales. Cette notion de se heurter à l'infini de l'arbre, au côté gigantesque dont nous avons parlé tout à l'heure. Notion de temps aussi, le temps de devenir ce qui l'on est. Et on sent qu'il y a ça aussi, il y a cette histoire-là dans votre livre, Dominique Roque, par rapport à votre père, par rapport aux gestes qui vous ont été transmis.
Oui, le temps, la notion du temps est partout dans ces découvertes, dans ces réflexions. Fondamentalement, je crois que je l'ai dit en introduction de notre entretien.
Oui.
Pour moi, il n'y a pas de doute, les forêts sont éternelles. Elles sont éternelles, virgule, en dépit de ce que nous leur faisons. Et toute l'histoire est là. Et je donne des exemples d'illustration des forêts éternelles parce qu'au fond, quand on arrive à s'abstraire de l'actualité délirante des feux de forêt, la Grèce qui est ravagée, il y a 2 ans, l'Australie avec des chiffres abominables de centaines de milliers d'animaux disparus, sans parler des vies humaines, les feux qu'on a eus en Gironde l'année dernière. Donc, on a très vite, dans notre actualité, dans notre temporalité, souvent beaucoup d'occasions de un peu de se désespérer ou de se lamenter en disant mais notre civilisation détruit la forêt. Alors moi je contre ça en disant dans l'immédiateté c'est vrai, sur le long terme c'est totalement faux. Et j'ai un exemple qui me bouleverse complètement, c'est l'exemple des cités d'Amérique centrale, des cités mayas.
Oui.
Donc on connaît bien hein, maintenant ce qu'était cette civilisation formidable, très très développée, et qui avait construit des cités, mais qui allaient du sud du Mexique jusqu'en bas du Guatemala. Et voilà. Et on a commencé, à partir du 19e siècle, à retrouver une cité par-ci, une cité par-là. Puis on s'est enchanté. On a dit, oh, c'est formidable. Vous rendez compte, ils en avaient fait 4, puis ils en avaient fait 5. Jusqu'à ce qu'on ait recours aux satellites et qu'on se rende compte que, en fait, ce qu'on voyait, c'était absolument rien par rapport à ce qu'était la réalité au départ. C'est-à-dire qu'il y avait des villes partout. La région était couverte de villes, couverte de pyramides. Et pourquoi est-ce qu'on s'en était pas aperçu? Tout simplement parce que il y a eu des crises et des bouleversements très importants en l'an 900 de notre ère, donc il y a un peu plus de 1000 ans, qui ont fait que ces villes ont été, les habitants se sont enfuis, probablement parce qu'ils n'arrivaient plus à se nourrir, qu'il n'y avait pas assez d'eau. Et on a abandonné ces villes. Pendant 1000 ans, qu'est-ce qui se passe 1000 ans plus tard? La forêt les a mangés. La forêt les a mangés.
Donc la forêt, toujours le dernier mot.
La forêt a mangé les hommes, c'est pas les hommes qui ont mangé la forêt.
Ouais.
Donc la forêt est éternelle. Voilà, alors on peut s'amuser et dire, ouais, mais on va l'enlever, on va tout reconquérir les cités, mais la prochaine fois, elle reviendra. Même exemple sur le temple d'Angkor Wat.
Oui, c'est ce que j'allais vous dire, encore.
Au Cambodge, on connaît tous ces photos extraordinaires où on voit les racines broyer les pierres, s'immiscer absolument partout. On n'arrête pas la forêt.
Et elle a le dernier mot, vous dites l'arbre survit, la forêt revient à l'allure qui lui convient, indifférente à notre horloge. Paraît-il d'ailleurs, les arbres repoussent aux alentours de Fukushima, donc le végétal revient. J'aurais qu'on vienne brièvement à votre métier de parfumeur, Dominique Rock. Les parfumeurs jouent avec les bois du monde sans hésiter à les mélanger pour traduire leur vision olfactive d'un arbre ou d'une forêt. Vous êtes cueilleur d'essence plus exactement, mais métier de parfumeur c'est un peu comme... Cher cueilleur d'essence, c'est un peu restituer un parfum, c'est comme quand on écrit, comme pour l'écriture. On restitue, je pense à Proust, mais on restitue l'arôme, le côté insaisissable des choses. Comment vous y êtes pris d'ailleurs pour écrire ce second ouvrage? Comment c'est parti? Quelles ont été les contraintes de ce livre? Parce que ça, on n'en a pas parlé.
Non, pas tellement de contraintes. Je crois que l'idée, c'est que si on fait un livre, il faut essayer de trouver des choses qui intéressent le lecteur. Ça paraît,
oui.
Ça paraît être la base. Donc j'ai essayé de trier dans mes souvenirs et dans mes rencontres avec les forêts sur lesquelles je parcourais parce qu'il y avait un lien avec le parfum. Par exemple, l'histoire du Gaillac, c'est évident.
Ouais,
Là, c'est un vrai sujet d'actualité pour l'industrie de la parfumerie. Ça, je m'y suis aussi beaucoup intéressé parce que j'ai réalisé qu'un certain nombre de produits qu'on utilise dans la composition des parfums pour évoquer les notes de cuir sont en fait des dérivés, des fumées de la carbonisation du hêtre. C'est vraiment merveilleux. Et cet exemple-là m'a beaucoup frappé parce que je disais tout à l'heure, les parfums des forêts, ça commence par une promenade à sentir le vent dans les feuillages qui vous ramène du parfum, et ça se termine avec les notes des fumées de charbon de bois. C'est-à-dire qu'on va suivre la vie de l'arbre dans la forêt absolument, pratiquement depuis sa naissance jusqu'à la mort qu'on lui cause quand on le scie, quand on fait des sciures, on fait des planches, et puis quand finalement on le brûle et toutes les odeurs du bois brûlé. Et cette palette d'odeur,
voilà.
C'est la palette de la vie, vraiment.
Et puis, la conjonction de coordination est, par exemple, je dis les titres de vos chapitres, l'arbre, le bûcheron et le parfum, par exemple, hein, c'est le temps des forêts, ok. L'enfance et la sûre, ça c'est beau, hein. Donc, il y a, à chaque fois, c'est des petits jalons, comme ça, dans votre mémoire de... J'allais dire de sourcier, c'est-à-dire que vous restituez un peu la forêt de votre enfance, la forêt de votre adolescence, la forêt de votre vie active. Et il y a une phrase qui pourrait être votre devise, une vérité dans toutes les forêts du monde, travailler juste pour travailler longtemps. La justesse, c'est important pour vous, doser.
Oui, ça, je fais allusion au fait qu'il m'est arrivé d'être bûcheron quand j'étais jeune, donc de travailler en forêt, et que la forêt est une magnifique école d'humilité sur le travail physique. C'est-à-dire qu'elle est tellement plus forte que nous, un arbre est plus lourd, plus gros, potentiellement plus dangereux, que quand on a l'audace de s'y attaquer, l'audace de vouloir le couper, l'audace de vouloir l'écorcer, on risque d'être blessé, on risque de se faire mal. Ce sont des métiers très durs, et je pense que c'est normal. C'est une espèce de rançon que l'homme doit payer, dont l'homme doit payer le prix pour rendre hommage à la majesté de l'arbre et du bois. Et j'ai appris beaucoup dans les métiers du bois à économiser les gestes, économiser ses forces. Merveilleuse leçon d'humilité.
Il y a beaucoup de métiers du bois qui ont disparu, qui ont forcément changé, puis avec la mécanisation,
oui.
Entre votre enfance et maintenant.
Ah bah oui. Moi, j'ai connu, enfant, les derniers bûcherons à la hache. J'ai bien connu l'ère des tronçonneuses. Aujourd'hui, on n'en est plus là. Les arbres sont coupés par des moissonneuses batteuses. Des moissonneuses. Ouais. Des tracteurs absolument phénoménaux, où tout a été mécanisé. Alors, ça n'a pas que des inconvénients. Hein. Ça donne des conditions de travail beaucoup plus faciles et sécurisées aux gens qui travaillent dans la forêt. Donc, il faut pas le regretter. C'est tout à fait différent de ce que j'ai vu à Bornéo, c'est-à-dire quand on se donne même plus la peine de reconnaître une valeur à l'arbre et qu'on le déracine au bulldozer pour mettre le feu à des paquets énormes de forêts encore vivantes.
Ouais. Vous parlez de la beauté fragile du cèdre. Cette notion de beauté fragile, elle est présente. La beauté fragile aussi est exprimée par le parfum. Le parfum, c'est... Il y a une forme de chose comme ça, oui. D'essence indéfinissable, mais qui passe aussi. C'est ça qui vous émeut aussi dans la forêt. C'est pas forcément... Il y a à la fois l'éternité, la force de ces arbres, et puis cette beauté fragile, puisqu'un arbre, du jour au lendemain, même sans l'aide du bûcheron, peut tomber.
Oui, alors cette fragilité... Alors, il y a le parfum et la fragilité. Pour moi, ce qui m'a beaucoup, beaucoup ému, c'est de me rendre compte que derrière un incendie de forêt, j'ai beaucoup assisté à ça quand j'étais plus jeune, à l'époque où les incendies dans le Midi, dans le sud-est de la France, étaient très importants, ou en Corse. Et quand on revenait 6 mois après, 1 an après, de voir les petits arbres qui recommençaient sans qu'on ait rien fait à pousser, d'eux-mêmes, toujours. Mmh. Et de prendre un petit genévrier, tout jeune, un petit pin... d'en froisser délicatement les premières aiguilles et de sentir que son parfum est déjà là. À peine il a renaît de ses cendres qu'il est déjà porteur de parfum. Autrement dit, il est porteur de la continuité qu'il a depuis des millions d'années. Et ça c'est véritablement bouleversant. Autrement dit, il y a ce lien. C'est pour ça que vraiment j'ai voulu appeler mon livre Le parfum des forêts. Si les forêts sont éternelles, elles sont éternellement parfumées.
Mmh. Il y a une forêt que vous encouriez, nos auditeurs qui nous écoutent, là, une forêt à aller voir, qui vous semble merveilleuse en France, peut-être. Il y a la forêt de Troncé, bien évidemment, mais...
Oui, il y en a partout. Il faut essayer d'aller dans des forêts de moyenne montagne. Ce sont les plus belles. Essayez de trouver des forêts où les hêtres sont mélangés au sapin. Vous ne vous en remettrez pas.
Ok. Merci à vous, Dominique Roch, pour Le parfum des forêts, l'homme et l'arbre, un lien millénaire. J'en profite, puisque nous avons du temps, pour annoncer la semaine prochaine, jeudi 5 octobre à 19h30 précise, Michel Venard lit, donc c'est une lecture à voix haute. Michel Venard fait des lectures à voix haute, généralement de nouvelles. Elle est venue déjà, je lui ai consacré une émission, et la semaine prochaine, jeudi 5 octobre, elle va consacrer sa lecture à 19h30 précise au théâtre Pandora, 30 rue Keller, 75-011 Paris, métro Bastille, à André Chédid. André Chédid, dont l'âme est très présente, je pense, à nos amis marocains. Elle a écrit un merveilleux roman qui s'appelle L'Autre, et justement, alors là où... question de tremblement de terre et où quelqu'un vous tend la main par-delà les ruines et les cendres. André Chédid qui a écrit vraiment de très très beaux livres, dont L'enfant multiple, dont Le sixième jour, très très beau livre. Et puis Michel Venard va lire notamment jeudi M, Le verbe et la chair, Klaxon, la métamorphose de Bathine. C'est vraiment André Chédid. Là aussi, c'est un auteur de vraiment très important à mes yeux, et aussi des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre d'André Chédid sont absolument, le théâtre d'André Chédid est absolument riche de réflexion. C'est ce que nous avons fait, Dominique Roch. Hein. Nous avons parce que je pense, en ce qui vous concerne aussi, à cette notion de réfléchir. Un texte va nous amener à établir un lien. Hein, je crois. Donc voilà, Michel Venard, donc pour tous nos auditeurs, s'ils veulent y aller, Théâtre Pandora, 30 rue Keller, 75-011 Paris, code rue 1973. Je crois que c'est une petite somme. C'est à 19h30 précise, le jeudi 5 octobre, et c'est un spécial André Chédid. Voilà, nous sommes un petit peu en avance. Dominique Roch, est-ce que vous avez votre bibliothèque, elle est constituée de plein de choses, de livres sur les arbres, de poésie?
Oui, beaucoup de poésie. J'aime bien, je suis au carrefour de Jean Giono et de Rimbaud, on va dire.
Oui, on aurait pu parler de Giono.
Oui, à propos des êtres, le livre en parle.
Ouais. Giono, vraiment un grand, grand écrivain. Eh bien, Flo Descailloux va nous réserver le mot de la fin. Peut-être ça va être votre choix à vous, Dominique Roch, je pense, pour le mot de la fin.
Tout à fait. Le mot de la fin, c'est Alain Souchon. La beauté d'Ava Gardner, c'est le choix de Dominique Roch. Et merci pour cette belle rencontre.
Les hommes qui sont ce qu'ils peuvent, assis sur le bord des fleuves, ils regardent s'en aller dans la mer. Les bouts de bois, les vieilles affaires. La beauté d'Ava Gardner. Ça met dans leurs yeux un air de savoir que tout va dans la mer. La jeune fille adoucit des soirs de verre. Les bateaux, les avions de guerre. La beauté d'Ava Gardner. Les murs écroulés du monde, filez nos belles enfances blondes, Edith Nylon, les nageuses à l'envers, les odeurs dans les chemins de fer. La beauté d'Ava Gardner. J'aime les regretteurs d'hier qui trouvent que tout ce qu'on gagne on le perd, qui voudraient changer le sens des rivières, retrouver dans la lumière. La beauté d'Ava Gardner. Retrouver les choses premières. La beauté d'Ava Gardner.
Salué au mari, passe l'horizon barré, vous y est pas ouais plus loin, passe ni moun qu'a souffert, et qu'a mort sans témoin, passe nous ni frais sans main, et d'autres qui pas ni pied, passe yo qu'a opéré, check malade qu'a crié, passe yo pé accusé. Un homme qui patouillait, manque à saluer au mari. Depuis un maman savent, dit maman et l'Igérie, les oiseaux criaient, passant l'autre qui pris. Et de l'eau la pluie tombait, les sentis les bois. Si l'amour virait ouais, qu'ils a fait au bel ou noir, les hommes ont dit en trouvé, en l'argent y pâté ouais, manque à saluer Marie.